Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose Professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro-vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Ma prochaine invitée a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans seulement. Ça vous étonne? Et pourtant, après 20 ans à travailler dur mais avec passion, elle a dû abandonner son rêve alors qu'elle touchait au but. Suite à des problèmes de santé, elle a dû faire le deuil de ce rêve et prendre le pas vers une nouvelle danse. Je vous laisse maintenant écouter Célia. Bonjour Célia!
Coucou!
Écoute, je suis ravie de t'accueillir à mon micro dans le cadre de ce podcast Métamorphose Professionnelle pour que tu puisses nous partager ta métamorphose, ton parcours et tes transitions. Je te laisse te présenter dans un premier temps, si tu veux bien.
Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là. Merci pour cette opportunité. Du coup, je m'appelle Célia, je travaille en tant que coach de vie maintenant et en tant que podcasteuse, mais je n'ai pas toujours été ça.
Donc, tu disais que tu n'as pas toujours été coach de vie et podcasteuse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, d'où tu pars, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu deviennes coach de vie et podcasteuse?
Bien sûr, alors on va remonter à très très loin, du coup à mes 4 ans.
D'accord.
Parce qu'à mes 4 ans, j'ai décidé que j'allais danser. J'ai décidé de faire mon premier cours de danse et je crois que c'était ma première phrase, ça. Je veux faire de la danse, d'après ma mère en tout cas.
D'accord.
Et je n'ai pas arrêté pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'à partir de mes 4 ans jusqu'à mes 22 ans, 24 ans, c'était clair pour moi que j'allais être danseuse professionnelle. Du coup, j'ai fait des associations, j'ai travaillé avec des compagnies, j'ai été en formation professionnelle, une de jazz et une de contemporain. J'ai dansé avec des chorégraphes. Le rêve était... à juste ça de se concrétiser pour être enfin payée pour être danseuse professionnelle. Et là, bah, mon corps, il a dit non. Il m'a dit, t'es mignonne, je comprends, mais là, en fait, si tu ne travailles pas sur toi, si tu n'apprends pas à t'aimer et à guérir ton rapport avec moi, et en fait, je vais te faire faire des crises de spasmophilie, je vais te faire faire crise de tétanie, je vais t'empêcher de respirer pour juste que tu comprennes que là, en fait, cette direction, elle n'est pas bonne pour toi. Du coup, j'ai décidé de l'écouter et j'ai décidé d'arrêter ma dernière année d'école de danse. J'ai pris la décision 6 mois avant la fin de dire « Ok, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, cette voie-là, pour l'instant, elle est bouchée. Donc, on va essayer d'apprendre à se connaître, on va essayer d'apprendre à s'aimer et on verra plus tard. »
Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être simple puisque c'était ton rêve depuis l'âge de 4 ans. Tu en avais fait depuis 20 ans, donc est-ce que tu as su quel avait été l'élément déclencheur? Parce que ça, a priori, en l'espace de 20 ans, il n'y avait pas eu forcément de difficultés. Et là, d'un coup, arrivé à la fin, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, avec un peu de recul maintenant, je suis assez capable de voir qu'il y a eu des éléments déclencheurs dans le sens où j'ai eu une expérience familiale un peu compliquée à gérer pendant mes formations, avec le divorce de mes parents. Et du coup, j'ai pris des rôles que je n'avais pas forcément à prendre. J'ai eu une charge émotionnelle qui est venue encore plus me peser. Et ça a été en fait aussi l'épuisement mental par rapport à ça et par rapport à moi. Parce que je me suis rendu compte, a posteriori, c'est beaucoup plus facile de le déchiffrer que dedans. Mais depuis très jeune, j'avais pris le rôle de la gentille fille. De la fille parfaite, toujours à l'écoute, toujours trop gentille. Celui-là, je l'ai entendu, mais des millions de fois. Et le trop gentil à tel point que j'étais en fonction des besoins des autres. Et autant pendant la danse, avant, j'arrivais à faire la part des choses, et la danse était mon univers à moi, pour être sur scène où je me sentais moi, autant quand je suis entrée en formation, où c'était devenu ma vie, avec cette surcharge émotionnelle, en fait, j'ai tout confondu et je suis devenue une danseuse type de ce qu'on voulait que je sois. Mais moi, ben, je ne savais pas. Et le truc, c'est qu'avec l'art, avec la danse, on ne peut pas tricher. On nous demande de travailler sur nos émotions, sur notre vécu. Si on n'y a pas accès, on ne danse plus. Et s'il y a une chose que je ne pouvais pas faire, c'est faire semblant. C'était trop important pour moi pour ne pas ressentir cette émotion, cette sensation. Je ne sais pas si j'ai déjà fait de la scène ou quelque chose comme ça, mais il y a un peu cette énergie qui passe, le petit suspense avant d'entrer sur scène et tout ça, et c'est incroyable. Et je ressentais plus ça, et ça, c'était impossible pour moi. Limite, c'était plus facile de prendre la décision en mode, pour la danse, je ne peux pas me permettre de continuer à faire un robot, plutôt que de m'avouer que pour l'instant, être danseuse, ce n'était pas l'option pour moi, quoi. Mais j'avais ce besoin de rester sincère vis-à-vis de la danse, ou si je ne ressens pas, si je ne suis pas dedans, je ne peux pas faire semblant. Ce n'est pas possible.
Ouais, bah oui, j'imagine bien. À partir du moment où, en plus, on est dans une activité artistique et tu vis pleinement, enfin voilà, tu transmets les émotions. Donc, pour ça, il faut déjà que toi-même, tu les ressentes.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu disais que voilà, tu as décidé d'arrêter 6 mois avant la fin de tes cours, lors de ta dernière année. Tu ne savais pas vers quoi t'orienter. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, officiellement, j'ai pris la décision 6 mois avant, mais j'ai quand même terminé parce que conscience professionnelle.
D'accord.
mais j'ai eu ces 6 mois pour commencer à me poser ces questions, justement. En mode, la partie la plus dure a été de m'avouer qu'il fallait que j'arrête. Ça, j'ai bataillé avec moi pendant très longtemps. Et à partir du moment où je l'ai dit à voix haute pour la première fois à une amie danseuse, ça m'a comme libérée. J'étais, ok, je l'ai dit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ça a été d'abord faire toutes les choses que je m'étais empêchée de faire quand je dansais, en fait. Parce que quand on est danseuse, il faut faire attention à son corps, faire attention à son alimentation. Notre corps est notre outil de travail. Du coup, le ski, les skateboards ou tout ce que tu veux, on évite. Parce que si tu es bien, du coup, je me suis dit, j'ai vu ça comme d'abord une libération en mode, ok, en fait, toutes les portes sont devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Du coup, j'ai passé le permis, j'ai travaillé sur des vendanges, je suis partie faire du marché, hôtesse d'accueil. Enfin, j'ai fait plein de choses différentes. Je me laissais porter par mes envies et de, ok, bah, testons de nouvelles choses, quoi. Et après, bien sûr, il y avait quand même ce besoin de faire quelque chose qui avait l'impact pour moi, qui avait l'importance. Et pour moi, la première étape a été de me former en tant que masseuse.
D'accord.
J'avais besoin de guérir mon rapport avec mon corps. Et en formation, je massais tout le temps. On se masse tout le temps. On a mal, du coup, on se masse. Et j'avais toujours eu des bons retours sur mes massages. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Je me formais à l'Institut Cassiopée. C'était un week-end de 3 jours. Ça s'appelle le massage évolutif. Et c'était justement masser en fonction de nos ressentis, nos sensations. Je me suis dit, bah, c'est parfait. J'y ai plus accès. On va passer par ce biais-là pour reconnecter avec ça. Et ça a été génial parce que j'ai vraiment cette sensation que quand je massais quelqu'un, quand j'enlevais les tensions, bah j'enlevais un peu mes propres tensions, je reprenais contact avec ma respiration, mes sensations. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de valider mon diplôme, bien sûr, et d'ouvrir un cabinet. Pendant un an, j'ai intégré un cabinet dans le 15e où je proposais mes services de massage. Et ça, c'était vachement cool.
Donc là, tu disais que tu avais pris conscience du fait que tu n'avais pas accès à ces émotions. À quel moment tu as eu cette prise de conscience que c'était ce côté émotionnel finalement auquel tu n'avais pas accès et qui était problématique aussi dans ta pratique?
Très bonne question. Je crois que je l'ai finalement toujours su parce que là, faire un métier comme ça lié à notre corps, à nos ressentis, c'est qu'on est très axé dessus, donc on est très à l'écoute. J'ai su, c'est drôle parce qu'il y a un shift, ma première année et demie de ma deuxième formation en contemporain, tout s'est très bien passé, j'ai évolué, les chorégraphes étaient contents, j'étais en mode, je suis sur une super lancée, c'est génial, machin. Et puis, j'ai eu un voyage au Canada dans une autre école, et je ne sais pas pourquoi ça a été ça, mais ça a été le début d'un désenchantement, d'un... je ne sais pas pourquoi ça a fait un déclic. Ah si, aussi ça peut-être. C'est qu'entre-temps, je m'étais aussi initiée au Reiki, pratique japonaise de soins énergétiques d'une amie de ma maman. Et ça a coïncidé en fait avec ce voyage. Et je pense que ça a été le déclencheur parce que le Reiki, justement, c'est une reconnexion à soi, aux énergies et tout ça. Et ça t'invite à te remettre sur le droit chemin si tu t'es un petit peu mis de côté. Et je pense que ça a été cette combinaison entre ce voyage au Canada dans une autre école et ça, où j'ai commencé à de moins en moins ressentir. Et vraiment, le moment où j'ai pris conscience de ça, ça a été mon spectacle de fin d'année, de deuxième année d'école, du coup, où j'ai rien ressenti tout le long du spectacle. Et ça m'était jamais arrivé d'aller sur scène et de rien ressentir, c'était affreux. J'étais vraiment, mais je comprenais pas pourquoi j'avais plus accès à ce qui me faisait vivre pendant 20 ans, pourquoi là, je n'y arrivais pas, quoi. Et ça a continué jusqu'à être plus physique, crise d'angoisse, crise de spasmophilie, de tétanie, machin, fallait que j'aille marcher, fallait que j'aille faire autre chose, jusqu'à ce que j'écrive dans un carnet tout ce que je ressentais, et quand je le relisais, c'était quand même pas ouf. Niveau émotion, c'était juste de la colère, de l'angoisse, de la peur, c'est comme si j'avais envie de déchirer mon corps pour me libérer. Il y avait vraiment un truc très corporel et très angoissant. Et c'est à partir du moment où j'ai posé ça, je me suis dit, bon, alors, certes, ça va pas, mais soyons honnêtes, ça va pas parce qu'il y a ça, 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 et on va essayer de prendre la bonne décision pour toi, ce qui est que là, pour l'instant, la danse, en tout cas, ton métier de danseuse tel qu'il est maintenant, c'est pas possible. Tu vas pas faire de la chirurgie esthétique, tu vas pas te changer corporellement pour correspondre à un idéal, donc on va stopper ça, on va guérir un peu ce qu'il y a à guérir, et après on verra.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me disais que tu avais ouvert un cabinet de massage.
Oui.
Est-ce c'est que ça, tu pratiques toujours ?
Alors, j'ai pratiqué pendant un an, avant le Covid.
D'accord.
Du coup, je proposais des services de massage et un petit peu de Reiki aussi, parce que j'avais atteint le troisième degré de Reiki à ce moment-là. Et je me disais, bah, quitte à faire du bien, autant mêler un petit peu les deux. Je faisais une sorte de massage énergétique et tout ça, c'était trop bien. Sauf que bah, confinement a fait que... fin du cabinet. Parce que les massages à distance, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, je me suis retrouvée pendant ce confinement, que les trécus, que j'étais avec ma meilleure à l'époque en colocation. Donc, super espace, bulle, cocooning et tout pour bien réfléchir. Et je me suis dit, ok, très bien. Alors, j'ai vécu ça pendant un an. J'aime ça. J'aime aider les autres. J'ai toujours aimé les autres. Et là, je me sentais que d'avoir un impact, même pour un petit moment dans la vie des gens, j'aimais ça. Leur permettre de se relâcher, de se détendre et tout. Le massage a des vertus exceptionnelles pour l'estime de soi, la confiance en soi et tout. Donc, j'aimais ça. Je me suis dit, le truc, c'est que ça me frustre parce que j'aimerais avoir un impact plus grand. J'aimerais que j'ai un impact sur toute leur vie. Mmh. Ego bonjour, plutôt que juste sur un moment.
D'accord.
Et c'est là que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me manque finalement dans... On parle beaucoup de ça en danse ou en spiritualité, l'alignement corps-cœur-tête.
Ouais.
J'avais le corps avec le massage, le cœur avec l'énergétique, il me manquait la tête.
Mmh.
Et moi aussi, j'avais besoin de travailler dans ma tête. Du coup, je me suis tournée vers le coaching. J'ai trouvé cette formation à distance qui s'appelait Ici Coach.
D'accord.
C'est une formation suivante, très reconnue pour le coup de veiller sur les avis. Et j'ai décidé demain pour le septembre, entre deux confinements, je me suis dit « Ok, bah, c'est parti ». On se lance et on verra. Et j'ai adoré. C'était génial de comprendre un peu tout ce qui se passe dans notre mental, comment est-ce que ça influe sur notre corps et donc sur notre vie.
Mm.
Ça a fait tout un éclair en mode « Mais c'est ça, c'est trop bien !» Et du coup, pendant cette formation, on se fait coacher, on coach, et ça a été ça pendant un an. J'ai eu deux diplômes, ils proposaient deux diplômes, celui de coach et de master coach, que j'ai eu, j'étais très contente. Et pour avoir ce diplôme de master coach, il fallait suivre des femmes, enfin, ou des hommes, et pendant un temps long, donc du coaching long de 3 mois.
D'accord.
Et j'ai adoré ça, de voir l'évolution au fur et à mesure. Moi, c'était plus dev perso pour le coup, c'est quand même un domaine qui me touche. Et de voir, par exemple, j'ai cette cliente qui, au début, s'était inscrite pour me faire plaisir, enfin, en pensant me rendre service, une trop gentille aussi. Et finalement, à la fin, elle se dit « Mais tu sais quoi, je suis devenue ma propre amie, et ça, j'ai jamais été. » Et c'est génial, cette sensation de se dire « Je suis une bonne amie pour les autres, mais moi aussi, je me considère en tant qu'être humain et en tant qu'amie. » Et j'étais « Mais oui, mais c'est trop bien !» Et du coup, je vais faire ça. Et c'est ce qui m'a amenée à continuer de me former, continuer de me coacher. En tant que coach, je trouve ça tellement important de se faire coacher. Je trouve que c'est un non-respect en tant que coach de ne pas se faire coacher vis-à-vis de nos coachés. Comment est-ce qu'on veut promouvoir le coaching et ses bienfaits si nous, on ne le teste pas? Je trouve que c'est aberrant. donc, je me suis fait coacher par... j'en suis à ma cinquième coaching, là, je crois.
Ouais.
Sur plein de thèmes différents, mais ça a un impact. Enfin, c'est incroyable. Donc, je me suis dit, bah, OK, on va faire ça. C'est parti.
Super. Donc là, tu disais tout à l'heure que tu as toujours pris conscience que tu étais trop gentille. Tu es tournée finalement assez naturellement vers l'aide aux autres. Tu savais que tu aimais ça. Comment toi, tu as su aussi te protéger? Parce que tu as bien formulé que tu es trop gentille. Donc il y a ce trop. Comment tu as su trouver finalement la juste mesure pour pas être trop et pouvoir aider les autres en te protégeant?
Yes, ça n'a pas été facile. Comment te dire? Absolument. Eh bien, en fait, la première étape a été de comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça. Quel était le mécanisme que je mettais en place pour toujours m'oublier par rapport aux autres et qu'est-ce que ça m'apportait finalement? Si on a ce mécanisme-là qui nous nuit, c'est que ça nous apporte quelque chose, même si on a du mal à le comprendre tout de suite, ça nous apporte quelque chose. Et moi, c'est vraiment de ne pas perdre ce rôle-là. Je m'étais définie pendant toute ma vie dans ce rôle de trop gentil, donc de le perpétuer quitte à me nuire, ça me permettait de rester dans une certaine zone de confort finalement. Donc ça a été de comprendre ça et de comprendre que, bah, en fait, en étant trop gentil, en voulant à tout prix coucouner les autres, bah, je les empêchais de prendre leurs propres décisions. Donc, en fait, je nuisais à leur propre développement. Ça a été la première étape. Et la deuxième étape a été justement de comprendre pour moi quel a été le déclencheur de ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment est-ce que ça a mis? En fait, ça a été d'apprendre à me connaître, apprendre à comprendre mon histoire et à me rendre compte que ça a été un rôle, mais en fait, je suis autre chose. Et en général, quand on est trop gentil, enfin, avec les personnes à qui j'en parle en ce moment, c'est parce qu'on a eu peut-être genre quelque chose dans l'enfance, une sorte de traumatisme ou un événement qui a fait qu'on a compris que finalement, il fallait qu'on donne tout aux autres et jamais dire non, sinon ça allait nuire à notre relation, on allait peut-être devenir seul, devenir rejeté et tout ça. Moi, par exemple, c'était, je pense, le harcèlement que j'ai vécu au collège. Du coup, je me suis sentie rejetée et je me suis dit, bah, si je suis trop gentille, je suis gentille, les gens, ils vont m'aimer. Du coup, je ne serai plus rejetée. Donc, c'est de comprendre ce mécanisme-là et après, de moi comprendre comment est-ce que je fonctionne et donc, du coup, retourner à qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message, qu'est-ce que mes émotions me disent. Et quand on a ces filtres-là et ces capteurs-là pour voir les situations, on est capable après de se dire, OK, est-ce que j'ai envie de faire ça parce que je suis trop gentille, je retourne dans ce schéma-là, ou est-ce que j'ai envie de faire ça parce que c'est pour moi tel que je suis maintenant.
D'accord. Donc, tu as suivi une formation de coaching à distance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette formation pour notamment ceux et celles que ça intéresse? C'est une formation qui dure combien de temps? Quelles sont les modalités, le rythme de formation?
Alors, elle dure un an. C'est un rendez-vous toutes les semaines. En l'occurrence, moi, c'était le mardi soir, un masterclass Zoom où on nous apprend tout début bah, le cadre du coaching, par exemple, le rôle du coach. Et ensuite, on va entrer de plus en plus en profondeur sur comment se déroule une séance de coaching, les impacts que ça a sur la vie, les questions types, comment avoir des questions impactantes et surtout la posture du coach. Ça, on passe énormément de temps à trouver sa bonne posture. Donc, les limites, être à l'écoute, pleinement à l'écoute, c'est pas toujours facile d'être totalement à l'écoute de la personne et on se rend compte que quand on est totalement à l'écoute de la personne, bah, les questions impactantes elles viennent facilement parce que c'est fluide en fait. Donc c'était juste comprendre ça que tu peux apprendre toutes les méthodologies que tu veux, le rôle, enfin l'atout principal du coach c'est lui-même et sa capacité d'être présent et à l'écoute. Et après, bah, c'était quelques trucs techniques aussi pour en faire un cadre de coaching, un contrat de coaching, comment commencer un suivi de coaching, comment le terminer. Et on avait donc deux diplômes qui nous étaient proposés de passer. Le premier, c'était diplôme coach. Donc, on avait une partie théorique et une partie pratique avec des enregistrements à donner de petites sessions de coaching. Et si on voulait le diplôme master coach qui revient pour demander... l'équivalence en France. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a CFDP, quelque chose comme ça. Une reconnaissance en tant que coach professionnel en France, je n'ai plus le terme. Et donc, c'était vu que c'est une formation suisse à l'international, c'était pour avoir cette reconnaissance. Et là, pour le coup, c'était un suivi de 3 personnes, donc 3 dossiers de suivi de coaching sur plusieurs mois et un dossier de suivi de coaching sur nous-mêmes. Donc, on
D'accord.
devait prendre une problématique qui nous intéressait, une des valeurs principales qui nous importait. Et comment est-ce que nous, on a fait notre propre suivi pour évoluer et qu'est-ce qu'on a mis en place pour évoluer? Moi, par exemple, j'ai travaillé sur les limites, poser des limites claires et les faire. Et c'était super intéressant de se rendre compte, OK, bah, tout ce que j'ai appris, je peux me l'appliquer à moi. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour avancer et poser ces limites claires?
D'accord. Et est-ce que tu as su assez facilement trouver ta posture de coach ou pas?
Alors, dans l'écoute de l'autre, assez facilement, oui, parce que finalement, je l'ai toujours fait, sauf que je n'avais pas ce cadre-là de coaching en spécifique, mais j'ai toujours donné des conseils, toujours été à l'écoute, toujours été l'épaule sur laquelle on venait pleurer. Du coup, ça, j'avais. Moi, ça a été plus oser poser les questions, oser peut-être interrompre la personne, la recadrer dans la session, en fait. C'était pas la laisser divaguer dans toutes ses pensées et dire... Ok, je comprends ce que tu partages et merci infiniment de te dévoiler comme ça. Mais là, on va aller chercher en profondeur. On va aller, parce que là, tu as dit quelque chose de super intéressant, du coup, on va aller chercher ça en fait. Et c'est d'oser aller chercher ça, oser proposer à la personne de, je suis clairement pas supérieure à toi, tu connais ta vie, par contre, moi, je peux te guider à aller chercher.
D'accord. Et donc là, tu as quitté l'univers de la danse complètement, si j'entends bien. Tu avais, j'imagine, un réseau plus ou moins important dans cet univers-là. Ta famille, tes amis qui t'ont connue danseuse pendant un certain nombre d'années, quel regard ils ont eu sur ce changement d'orientation professionnelle et changement de vie, en l'occurrence?
Alors, mes amis proches, vu qu'ils m'ont vu traverser les émotions ou les situations que j'ai traversées, ils l'ont accepté. Ils n'ont pas tout de suite forcément compris, mais ils ont accepté que de toute façon, je prenais la meilleure décision pour moi. Ça se voyait en fait.
D'accord.
Moi, ça a été plus niveau familial. Même si j'ai eu le soutien dont j'avais besoin, ma famille, elle est géniale sur ça. Il y a eu quand même, je le sais, cette incompréhension de qu'est-ce qui se passe? T'as voulu être danseuse toute ta vie, là t'es danseuse, pourquoi t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? C'était plus cette peur de mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Enfin, elle est danseuse, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Donc c'était plus cette incompréhension dans la peur de t'as quand même changé tous les codes, là on ne sait pas où est-ce que tu vas. Par contre, à partir du moment où moi je leur ai expliqué que je savais ce que je faisais. Enfin, c'était grand ça. Je savais qu'il fallait que je le fasse. C'est plus ça la bonne réponse. Ils ont soutenu mes avancées dans tous les cas. Peut-être que je suis allée après un petit peu trop vite. Je suis passée du massage au Reiki, au coaching. En mode, est-ce que t'es sûre? Parce que nous, on comprend pas trop ce que tu fais. Mais bon, si ça. Et après, bah maintenant, ils sont ultra contents de voir que ça commence à se poser aussi dans ma tête et que je suis sur une ligne un peu plus droite, un peu plus compréhensible pour eux en fait. Donc là, ils sont très contents pour ça. Niveau pro, j'ai eu des chorégraphes qui m'ont dit mais pourquoi t'arrêtes? Non, je vais pas si, ceci va falloir là en fait parce que là c'est mon intégrité personnelle qui est mise en jeu. Donc là pour le coup j'ai plus de contact avec eux. Mais ça va, j'ai quand même eu un entourage quand même assez bienveillant pour pouvoir gérer ça de mon côté sans me confronter à des murs infranchissables.
Est-ce que tu t'es fait accompagner dans cette transition professionnelle?
Alors, tout le premier pas du processus, quitter la danse et tout ça, non, j'ai fait ça toute seule. Parce que j'ai vraiment écouté ce qui me semblait le plus juste pour moi. Par contre, à partir du moment où je me suis formée en coaching, là oui. Là vraiment, donc j'ai fait cette formation, bien sûr. J'ai tout de suite enchaîné avec mon premier coaching coaching de 3 mois avec une coach qui s'appelle Laura Cardozo, qui était très centrée du coup pour moi dev perso à l'époque. Ça a été parfait pour justement travailler mon syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur et tous ces grands mots qui font super plaisir. Et après, je me suis découvert, bah dis donc, ma voix m'abandonne. J'ai découvert parce que le perso et le pro sont intimement liés. S'il y a des blocages niveau pro, surtout dans le coaching et tout ça, c'est qu'il faut aller chercher dans le perso quand même. Et donc, je me suis découvert atteinte du vaginisme, parce que mon corps aussi m'exprimait des choses. Donc, je me suis fait coacher et accompagner pour ça. Et en fait, ça a vraiment été une ouverture au monde, parce que me faire accompagner pour guérir ça, ça guérit tellement de choses en moi. Je me suis fait aussi accompagner niveau relation à la nourriture. D'accord. En fait, j'ai vraiment essayé de voir tous les points qui m'ont amené à plus danser, d'aller regarder de plus près, d'aller vraiment fouiller qu'est-ce que mon corps m'a dit, pourquoi est-ce qu'il a pété un câble. Yeah. Et donc, me faire accompagner pour ça, trouver la bonne alimentation qui me convient à moi, guérir du vaginisme, ça m'a amené à après me libérer, mais vraiment me sentir entière et complète, quelque chose que je ne pensais pas être. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus simple de commencer à m'affirmer en tant que personne, de faire mes choix pour moi, en bienveillance avec les autres, bien sûr, mais pour moi au départ. Et ça m'a amené à créer mon podcast, par exemple, à écrire des poèmes, à commencer à me faire coacher en business pour créer une offre qui me plaît pour accompagner les personnes. Ça a été en fait tout ça, tout ce socle de 1 ou 2 ans où je me suis fait accompagner, j'ai pas mal travaillé sur moi, a permis de faire des bases solides pour maintenant me dire « Ok, maintenant ça c'est fait, qu'est-ce qu'on construit ?»
D'accord. Et donc là, tu disais que tu te sentais entière et complète. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre ces 20 ans, je dirais, d'exercice de la danse, de la pratique de la danse de manière assez intensive, puisque c'était un objectif professionnel, et aujourd'hui, dans ta vie, de manière générale?
Ce qui a changé, principalement, c'est comment est-ce que je me vois. Et donc, du coup, comment est-ce que je me comporte dans ma vie? La danse était vraiment, jusqu'à les dernières années, un échappatoire. C'était le seul moment de ma vie où je me sentais moi. Je ne savais pas encore ce que c'était, moi, mais ça me plaisait bien, ce moi-là. Et c'était mon moyen d'expression. Je ne savais pas m'exprimer autrement. Les mots, ce n'était pas possible, parce que j'étais très gentille. Du coup, je ne parlais pas. Je n'avais pas de sentiments de remontrance, c'est pas possible. Je suis parfaite, trop gentille, c'est pas possible. Je dis toujours oui. Du coup, ça a été là, moi maintenant, je suis capable aussi sereinement de dire oui que non. Et ça, c'est très libérateur quand même. Et ça a été aussi justement pouvoir poser les mots, pouvoir m'exprimer. Et j'avais pas accès à cette expression-là à l'époque. Enfin, je le faisais à travers le mouvement. Et maintenant, je suis capable de le dire par des mots. Et je suis une amoureuse des mots. Pour moi, les mots sont incroyables. C'est un pouvoir extraordinaire de parler, de transmettre. Et me dire que maintenant, je suis assez assurée et assez moi pour savoir l'exprimer, savoir me remettre en question, savoir aider les gens à se remettre en question. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé je ne vais pas dire un but, mais un peu mon chemin, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je fais ce qui me plaît, ce qui me sonne juste pour moi. Je peux aider les autres à faire ce travail-là et à se sentir entier et complet. Ça, s'il y a des trop gentils qui nous écoutent, en général, c'est quelque chose qu'on a envie d'être, entier et complet. De dire qu'on n'est pas une demi-personne et qu'on doit se compléter avec quelqu'un d'autre. Non, on est déjà super tel que l'on est. Pas de souci. C'est juste, faut juste en prendre conscience et apprendre à s'aimer. Ça, c'est autre chose, mais la vie est tellement plus jolie quand on apprend à s'aimer.
Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, hormis donc là, peut-être des problèmes de santé? Quelles ont été pour toi les principales difficultés dans le cadre de cette transition?
Ça a été de redéfinir des limites claires, du coup. Je l'ai travaillé pendant mon truc de coaching et ça a été ça, en fait. Ça a été au fur et à mesure que j'apprenais à me connaître, que j'apprenais à me rendre compte que j'avais fait des choses dans ma vie où, à l'époque, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Donc, je suis contente de l'avoir fait parce que, de toute façon, c'est la seule solution pour moi, mais qui à présent ne me convenait plus. Et c'était savoir, oser dire, ok, ça, ça ne me convient plus, ça ne correspond pas à qui je suis. Et ça, ça a été compliqué pour moi à l'admettre. Bien sûr, avec toutes les peurs de, oui, mais si je change un degré de ce qui se passe, ça se trouve, tout va s'écrouler, forcément. Donc, ça a été me faire confiance et faire confiance aux personnes avec qui j'avais ce besoin de limite à cadrer. On a un rapport assez important pour que ça ne foute pas tout en l'air, juste qu'on recadre les choses. Et ça a pris du temps, mais maintenant, je suis assez contente de me dire que je suis capable de recadrer. Genre, j'ai eu deux disputes dans ma vie. Je ne m'étais jamais disputée avec personne. Ce moment, ça a été des disputes. J'ai été en colère, première fois de ma vie. Ça a été... C'est éprouvant d'être en colère. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est éprouvant. Bah, ça m'a fatiguée. Et donc, ça a été d'accepter ça, accepter que là, j'étais en colère parce que je me respectais. Donc, ça a été la première étape. Et après, de dire, ok, maintenant, comment est-ce qu'on processe ça? Comment est-ce qu'on accueille cette colère? Et comment est-ce qu'on agit pour le meilleur de cette relation, autant pour l'autre que pour moi? Et une fois fait ça, ça m'a vraiment libérée de surmonter ça, surmonter cette peur du conflit, cette peur de la colère, et de l'accueillir et de se dire, ok, on n'est pas mort. Et là, c'est vachement libérateur.
Donc là, tu as installé en tant que coach de vie. Depuis combien de temps tu as installé?
Alors, du coup, je le fais principalement sur Zoom, en ligne. Je suis quelqu'un qui est en quête, et pas forcément en quête parce que je suis déjà libre, mais pour qui la liberté est très importante, la liberté de mouvement. J'ai une envie de voyage, de découverte qui s'exprime beaucoup, du coup, vraiment en ligne. Et en fait, je me fais accompagner dessus pour justement l'établir. Donc moi, mon principal réseau sur lequel je m'exprime, c'est Instagram, pour le coup. Pareil, j'ai beaucoup travaillé pour enlever toutes mes visions néfastes d'Instagram. C'est un gros processus. Moi, j'aime bien les contacts vrais, humains. Du coup, les réseaux sociaux, au début, c'était un peu le diable incarné. Mais bon, j'ai compris qu'on pouvait, en créant des comptes bienveillants, ouvert, où la communication et le partage sont les mots-clés, qu'on pouvait aider à créer un nouveau réseau social beaucoup plus juste et beaucoup plus authentique. Du coup, je suis fière de contribuer à ça. Et je suis en train de créer mon offre de coaching, d'accompagnement pour aider justement les trop gentils, les anciens moi, à s'affirmer, à s'aimer et à se sentir entier, en fait, en paix avec eux-mêmes. Et du coup, j'ai déjà pas mal d'idées. Je suis en train de vraiment, ce serait vraiment un processus du parcours que moi j'ai vécu, que je sais que ça fonctionne parce que du coup, je l'ai vécu, d'aller regarder notre rapport au corps, d'aller regarder notre rapport aux émotions, essayer de les comprendre, les accueillir. On n'a pas tous conscience de combien d'émotions on ressent dans une journée, par exemple, et où est-ce qu'elles s'expriment dans notre corps. Donc, avoir accès à ce vocabulaire-là, c'est génial pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en général, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'on ne va pas bien, mais on ne sait pas ce qui se passe. Aller voir le mental, aller chercher un peu toutes ces petites blessures qu'on a mises sous le tapis pour avancer. Et là, se dire, ok, si elles sont là, si elles ont persisté, c'est qu'il y a une raison. Donc, en fait, mon but, c'est de rendre les personnes autonomes dans leur bien-être. Et j'ai hâte d'en parler. Je commence un petit peu à en parler, à faire des recherches et tout, mais pour l'instant, j'adore ce projet.
Ok, génial. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite d'aboutir dans tes projets. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils? J'aime pas forcément la notion de conseil, mais en tout cas un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui souhaiteraient changer d'orientation professionnelle et peut-être aussi particulièrement dans le coaching de vie.
Bah, je dirais que la première chose importante, c'est que si vous ressentez dans votre corps, pour le coup, le corps s'exprime quand même assez rapidement, que où vous êtes professionnellement, ça ne vous convient pas. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes méchant, c'est pas que vous êtes le diable incarné, c'est que ça ne vous convient pas. Et vous avez le droit à mieux, en fait. Vous avez le droit de trouver la chose où vous vous levez le matin et vous dites oh, « c'est génial, je vais aller travailler aujourd'hui ». C'est possible, ça existe, que ce soit dans une entreprise, dans l'auto-entrepreneuriat, partout, vous avez le droit de vous sentir bien au travail et de vous épanouir dans votre travail. Ça, c'est un droit qu'on a tous et qu'on a tendance à oublier. Et je sais que, par exemple, le CDI, le machin, ça fait peur de peut-être quitter un CDI pour un autre, de se lancer dans l'inconnu. Mais si vous sentez dans votre corps, dans vos tripes, que il faut le faire, on est appelé à ça, on est appelé à ce saut dans le vide, on le sait inconsciemment, même si on ne veut pas l'admettre, on le sait. Si on le sait, c'est qu'il faut y aller. Et il y aura toujours des personnes qui seront là, vous savez peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais qui seront là pour vous aider à vous accompagner. J'aime bien, c'est dans le film Zorro, du coup je suis très très film à cause de mon podcast, grâce à mon podcast du coup, où je parle des films et du développement personnel, donc du coup c'est ma solution pour regarder beaucoup beaucoup de films et parler du dev perso.
Ouais.
Et donc dans le masque de Zorro, il dit « Quand l'élève est prêt, le maître s'avance ». Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait c'est « Quand tu fais ce saut dans le vide, je suis presque sûre qu'il y aura quelqu'un qui s'avancera pour te dire « Ok, tiens, je vais te tendre la main pour t'aider à faire un ou deux pas
».
Quel qu'il soit, ça se trouve c'est un ami, ça se trouve c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors pas du tout. Mais quand on fait les choix bons pour nous, juste pour nous, la vie est très bien faite en général. On trouve des personnes ou des événements qui nous poussent à continuer dans ce chemin-là. Mmh. Et peut-être ce serait aussi de faire confiance que vous savez faire les bons choix. Peut-être que ce n'est pas les bons choix pour votre entourage ou la société, votre employeur ou n'importe quoi. Mais au fond de vous, vous savez c'est quoi le bon choix pour vous. Et si vous savez c'est quoi le bon choix pour vous, bah peut-être essayez, tentez. De toute façon, dans tous les cas, le pire qui peut vous arriver, c'est de vous dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça !» mais au moins, vous aurez appris quelque chose et vous aurez délimité peut-être les choses que vous ne voulez plus. Et ça, c'est aussi important que de savoir ce que vous voulez. Mmh. Donc, passez par étapes. Et de toute façon, c'est en essayant, comme pour marcher, hein, c'est en apprenant à marcher qu'on marche. Donc, c'est en essayant qu'on trouve.
Exactement, je te rejoins totalement. Et j'ai envie de rebondir sur des phrases et des mots que tu as pu évoquer durant cet échange qui m'ont beaucoup parlé. Alors, c'est vrai que déjà, cette citation, je ne la connaissais pas. Je la retiens. Quand l'élève est prêt, le maître s'avance. Parfait. Il y a eu cette phase d'exploration, exploration de toi, exploration en testant des nouvelles expériences, en testant des choses que tu avais été contrainte de mettre de côté du fait de la danse et de la place que ça avait pris, de l'exigence que ça demande. L'écoute de soi, qui est primordiale là, quand on t'entend, et de toute façon, quels que soient les choix, et notamment professionnels dans l'orientation, voilà. Effectivement, il y a le travail de manière très objective, mais il y a tout l'aspect subjectif que ça invite à questionner. Et donc, l'écoute de soi est vraiment au cœur de l'orientation professionnelle. Tu as parlé d'intégrité personnelle qui avait été mise en jeu. Donc, ça rejoint aussi un petit peu cette notion d'écoute de soi. Le fait que tu t'es sentie entière et complète et qu'on n'est pas une demi-personne, ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça parlera aussi à beaucoup de personnes qui vont pouvoir écouter cet épisode. Et je fais ce qui me semble juste. Voilà. Il y en aurait d'autres, il y en aurait vraiment plein d'autres. Mais ouais, c'est ce que j'ai retenu. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Célia, pour ton partage. Et puis, j'invite du coup les auditeurs à venir vers toi si toutefois, voilà, ils ont des questions, des questionnements de vie, personnel et professionnel. Donc voilà, accessible partout en France. Ça, peut-être ailleurs.
Bientôt.
Merci beaucoup, Célia.
Merci à toi pour cet échange, pour ce partage. Et à bientôt, peut-être, pour un nouvel échange.
Je te souhaite une belle journée, une bonne continuation dans tes projets.
À toi aussi.
Merci.
Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours Métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Métamorphose.